La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous allons passer une heure ensemble. Et vous savez quoi? Nous sommes à Carcassonne. Dans cet endroit, nous sommes à la Chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie, qui est très en pointe en matière d'apprentissage et de formation des salariés. Sujet bien évidemment capital pour se relever de cette crise. Et on va en parler avec Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comment garder les compétences en interne malgré un carnet de commandes qui s'effondre? Comment former les salariés pour sortir plus fort de cette crise? Et plus largement, comment maintenir les recrutements d'apprentis et former les salariés pour les faire monter en compétences? On en parle depuis le Purple Campus de Carcassonne jusqu'à 14h avec le directeur des ressources humaines d'Airbus.
À la une, en effet, la formation, la Fabrique du Sud commercialise depuis l'Aude des glaces partout en France. Les salariés se sont battus pour sauver leur entreprise. Ils se sont rassemblés en SCOP et aujourd'hui, la formation est au cœur du projet d'entreprise pour continuer de s'agrandir. Son directeur général est également parmi nous.
S'il y a bien un secteur où l'apprentissage et la formation sont indispensables, c'est celui de la restauration. Jean-Pierre Blasco a commencé comme apprenti à 16 ans et aujourd'hui, à la tête de l'Auberge d'Hélice à Carcassonne, c'est lui qui forme des apprentis pour leur faire partager son amour du métier. Ce sera notre saga du jour, tiens, aux alentours de 13h30.
Chaque jour, les trophées Europe 1. La France bouge, un projet défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, l'équipe de La France bouge et CCI France, bien sûr, ont retenu une start-up qui redonne vie à vos bouteilles, à vos verres. Elle transforme des bouteilles en produits d'art de la table. Ça s'appelle Culo. Le pitch va-t-il vous convaincre? Réponse à 13h45.
Et puis ici, tiens, justement, en direct de ce Purple Campus, qui était vraiment un lieu d'excellence pour la formation, pour les apprentis, eh bien, on vous expliquera ce qu'ils font de plus peut-être que les autres. Ce sera à 13h50 avec le directeur général de ce Purple Campus.
Et c'est ça, la France qui bouge. Oui, nous sommes ensemble en direct de Carcassonne. Jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Allez, on est une fois de plus en vadrouille et donc aujourd'hui on est en effet en direct de cette magnifique cité de Carcassonne. On n'a pas de chance, on emmène souvent la pluie avec nous, mais on a plein de bonne humeur et c'est ça le plus important. Et on va parler de tout cela avec notre grand témoin du jour.
Bonjour Thierry Baril.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des ressources humaines d'Airbus. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Airbus, c'est 130 000 salariés dans le monde. La reprise dans le secteur aérien est là. Alors, est-ce que c'est reparti chez Airbus?
Alors, c'est reparti, mais on reste extrêmement prudent. On vient de vivre quand même des mois très difficiles dans le domaine de l'aviation en général. C'est reparti très fort, par exemple, en Asie. C'est en train de repartir très bien aux États-Unis. L'Europe n'est pas encore au niveau escompté aujourd'hui. Mais effectivement, l'industriel que nous sommes se prépare à cette reprise après quasiment une année et demie de difficultés à affronter avec une perte d'activité de l'ordre de 40% en fait de notre activité précédente.
Mais c'est vrai qu'on avait parlé de reprise 2023-2024. Certains disaient même peut-être encore après. Est-ce que quand même, il n'y a pas... Allez, si on regarde le verre à moitié plein, est-ce que vous ne dites pas là, en ce moment, chez Airbus, ça va peut-être être moins pire que prévu?
En tous les cas, il y a une expression chez Airbus actuellement qui est « on commence à voir la lumière au fond du tunnel ». Et cette lumière commence à être de plus en plus brillante. Mais on reste finalement très consistant avec nos annonces de l'année dernière. On va, par exemple, sur les monocouloirs, la famille A320, produire d'ici la fin de l'année 45 avions par mois. On n'est pas remonté au niveau précédent. Et on pense, à partir de 2022, effectivement, voir sur cette gamme d'appareils une première reprise conséquente. Par contre, pour les vols long courrier, plutôt 2023-2024.
Donc, pour la production de ces avions, il faut des salariés. Est-ce que tout le monde commence à revenir là chez Airbus à temps plein?
Alors déjà, il y a plein de salariés qui ne sont jamais partis.
Ils ne sont jamais arrêtés.
Nous sommes une activité industrielle. Très rapidement, et après avoir mis en œuvre l'ensemble de nos protocoles sanitaires l'année dernière, lors des premiers confinements, nous nous sommes organisés pour continuer de produire, avec effectivement 40% d'activité en moins. Mais finalement, nos usines sont restées actives depuis le début de la crise. Par contre, effectivement, d'autres salariés qui pouvaient travailler en télétravail sont restés souvent à travailler depuis chez eux et reviennent petit à petit sur nos sites, en fonction aussi des contraintes sanitaires de chaque pays, puisqu'on respecte bien évidemment avant tout les contraintes de chaque pays.
Bien sûr, mais si on regarde la France, à compter du 9 juin, là le gouvernement a dit on peut faire revenir un petit peu les salariés sur site. Par exemple, les cantines vont aussi pouvoir reprendre avec des tables, etc. etc. Vous sentez comment vos salariés aujourd'hui, usés par cette crise, par le télétravail, que ce soit des managers ou des salariés?
Alors en fait, on a beaucoup appris de cette crise au travers de notre capacité à travailler de manière digitale. Et finalement, on pensait tous qu'on n'était pas très bon dans le domaine digital. Finalement, on s'est avéré être plutôt pas si mal que cela. Et beaucoup de salariés se sont rendus compte qu'on pouvait travailler dans de bonnes conditions, finalement, à distance. L'entreprise aussi. Donc, bien évidemment, on va avoir un retour assez conséquent à partir du mois de juin sur nos sites. En fait, surtout pour s'organiser pour l'avenir. Parce que l'expérience que nous avons eue au cours des derniers mois va nous permettre de mettre en place des solutions dites de travail hybride, permettant d'être à la fois sur site et de pouvoir travailler à distance. Mais simplement, il faut l'organiser. Ça doit se faire au niveau d'une équipe, ça doit se faire au niveau du management. Et donc, cet été, on demande aux salariés de revenir sur nos sites pour s'organiser et pour commencer en fait à travailler de manière hybride, mais structurée, et non pas sous contrainte à partir du mois d'octobre.
Pas sous contrainte, Thierry Barrel, vous êtes le directeur des ressources humaines d'Airbus. Comment vous les sentez, vos salariés, en ce moment? Beaucoup disent que le télétravail a épuisé, que ce soit les managers ou les équipes. Vous, chez Airbus, comment vont-ils?
Je crois qu'il y a une grande envie de revenir, de retrouver le lien, tout simplement le lien humain. Airbus est une entreprise extraordinaire parce que nous vivons de passion depuis plus de 50 ans. Nous sommes une entreprise de projet, une entreprise d'ingénierie, une entreprise de haute technologie. Travailler à distance, ça a quelques limites quand même, et notamment quand on est dans des sujets d'innovation. Donc on sent bien cette envie de revenir. Par contre, l'enthousiasme chez Airbus n'a pas changé.
Et quelle sera la règle à l'avenir pour le télétravail? Vous parlez de travail hybride, mais pour qu'on comprenne bien, là, pour que nos auditeurs en voiture à la maison comprennent bien, ça veut dire quoi le travail hybride chez Airbus?
Nous pensons que nous pouvons permettre à chaque salarié d'une même équipe de pouvoir travailler une à deux journées par semaine. Et c'est ça en fait le mot hybride, puisque ça veut dire trois jours sur site, trois ou quatre jours sur site, de telle façon que l'on soit capable de garder ce lien social important dans la construction d'une équipe.
Si nous sommes ici au sein de ce Purple Campus, au sein de la Chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie, à Carcassonne, c'est parce que la formation est centrale. Vous, la formation dans les groupes, vous le savez, Thierry Barrel, c'est capital pour innover. Comment ça s'est passé chez Airbus? Vous avez maintenu les formations pendant ces longs mois?
Alors, on a dû revoir quand même un peu notre voilure, pour des raisons de coût essentiellement. Garder toutes les formations qui étaient nécessaires, impérative, notamment dans le domaine de la production, de la sécurité, de la qualité, de l'environnement. D'autres formations qui pouvaient attendre ont été mises de côté. En même temps, si je parle de la France, on a toujours développé un investissement de l'ordre de 65 millions, pour vous donner à peu près une idée. L'année précédente, on était environ à 80 millions. Donc, on n'a pas tout arrêté. Mais par contre, la part du digital a été très conséquente. Et effectivement, on sent bien aujourd'hui que nos salariés ont vraiment envie de revenir aussi dans des formations présentielles. Et donc, on va pouvoir les réorganiser.
De toute façon, tout arrêté dans un groupe comme vous, c'est la mort de l'entreprise, parce que vous devez monter en compétences, parce que les métiers changent. Aujourd'hui, chez Airbus, vous avez besoin de gens qui connaissent mieux les nouveaux matériaux, les nouvelles façons d'utiliser du carburant dans les avions. Donc, il faut former les gens qui sont là. Et puis, j'imagine trouver de nouveaux profils que vous aviez peu pour le moment dans vos usines.
Exactement, exactement. Et c'est pour ça qu'on a maintenu un petit flux de recrutement, petit parce qu'on était en même temps en plein plan d'adaptation. Mais on a réussi à maintenir un petit flux sur des métiers qui ne sont pas les métiers obligatoirement traditionnels de l'entreprise, mais ceux qui nous permettent de préparer l'avenir, et notamment pour la révolution hydrogène dont tout le monde parle aujourd'hui.
Préparer l'avenir, on commence à voir la lumière au fond du tunnel. La reprise est bien là, c'est ce que vous nous dites, Thierry Barrel. Vous êtes le directeur des ressources humaines d'Airbus et vous êtes notre invité exceptionnel aujourd'hui dans La France Bouge.
Il est 13h18 pour le moment sur Europe 1.
On reste à Carcassonne avec ces entreprises qui mettent la formation, qui placent la formation en priorité.
Oui, c'est le cas également d'un glacier qui s'appelle la Fabrique du Sud. Son directeur général sera avec nous là aussi en direct de Carcassonne dans un instant. Et on est en direct aujourd'hui de Carcassonne, plus précisément en direct du Purple Campus qui appartient à la CCI d'Occitanie, qui est un lieu d'excellence pour les formations. Et on poursuit comme ça notre tour de France avec notre grand témoin du jour, Thierry Barrel, qui est le directeur des ressources humaines d'Airbus.
Et former des alternants pour leur permettre à terme de prendre part dans chacune des décisions de l'entreprise. C'est ce que vous avez fait, Maxime Jarne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de La Belle Aude. La Belle Aude, ce sont des crèmes glacées. Et votre entreprise a connu beaucoup, beaucoup de rebondissements. En juillet 2012, elle a carrément été fermée. Les salariés ont été licenciés. Mais après un an de bataille juridique, vous avez orienté l'entreprise sous la forme d'une SCOP. Alors pour nos auditeurs, rappelez-nous ce qu'est une SCOP. C'est en gros, chacun prend part aux décisions, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est une SCOP, c'est une société coopérative et participative. Donc, comme son nom l'indique, participative, donc les salariés participent à la vie de l'entreprise, participent aux décisions de l'entreprise.
C'est important pour vous d'orienter le modèle de votre entreprise vers cela ?
C'était essentiel. On était dans une entreprise où on n'avait aucun moyen de décision. On venait travailler, on fabriquait, on produisait nos glaces, on ne connaissait pas les tenants et les aboutissants. Maintenant, dans notre entreprise, tous les salariés savent pourquoi ils se lèvent le matin, savent ce qu'ils font, connaissent tout le réseau de l'entreprise, que ce soit le commercial, que ce soit l'administratif, que ce soit la logistique. Voilà. Il y a une transparence complète et tout le monde est à même de parler et d'échanger sur tous les sujets de l'entreprise.
Ce qui est formidable d'une certaine manière dans votre histoire, c'est que d'une mauvaise nouvelle, la fermeture de l'usine où on vous avait dit il n'y a pas d'avenir. Vous étiez 150 salariés à fabriquer de la crème glacée juste à côté d'ici, mais on vous a dit on ferme l'usine, on la vend, on la vide de ses machines. Et vous, avec quelques collègues, je crois avec 19 salariés, vous avez dit non, 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 c'est pas possible. Nous, on va pouvoir repartir. Et vous avez réussi. Quand vous avez ouvert la clé le premier jour, parce que vous avez tout relancé, vous avez dû racheter des machines et tout, vous vous disiez là que 7-8 ans plus tard, vous seriez là au micro d'Europe 1 en disant qu'on cartonne ?
Non. On était un petit peu inconscient, à vrai dire. Parce qu'on
mais il en faut un peu, je crois. Non,
je crois, il en fallait. Parce qu'on est parti vraiment avec 0 euro de chiffre d'affaires, 19 salariés. Et on s'est dit, allez, on a un savoir-faire. On a une expérience dans le domaine de la crème glacée. Qu'est-ce qui nous manque ? Il ne nous manque pas grand-chose. De toute façon, on n'a rien à perdre. On est au chômage. Donc, on va créer cette entreprise. Et il suffit juste de mettre de la bonne volonté, de l'envie, de la motivation, du bon sens, on va dire. Et on est parti comme ça.
Vous êtes parti de rien quand vous dites que vous étiez 19 salariés. Ça signifie que, selon votre modèle, 19 salariés se sont associés à votre projet. Et au fur et à mesure, vous avez développé la partie commerciale. Et là, les jeunes, les alternants sont arrivés chez vous.
Tout à fait. En fin de compte, ce qu'on a fait, effectivement, on était 19 au démarrage. Maintenant, on est 25. Et petit à petit, en fin de compte, on a fait grandir les jeunes, en fin de compte, qu'on a formés chez nous en alternance pendant au début 6 mois, et puis certains qu'on a pris pendant 2 ans. Et au fur et à mesure, des besoins aussi, parce que c'est gagnant-gagnant, c'est gagnant pour les personnes qui ont besoin de faire ces formations en entreprise, et c'est gagnant pour nous, entreprises, qui avons besoin. Des fois, on n'a pas justement les moyens d'embaucher directement une personne. Ça coûte cher, un salaire. Donc, c'était gagnant-gagnant. On les a fait grandir.
Mais ils sont restés.
Et ils sont restés, oui.
Mais ils sont restés parce qu'ils ont la possibilité de participer aux moindres décisions de l'entreprise. Ça joue, ça aussi.
Tout à fait. C'est-à-dire que toutes les décisions de l'entreprise, les décisions stratégiques, sont prises par l'ensemble des salariés. Donc, pour prendre ces décisions bon état de cause, c'est-à-dire qu'il faut connaître le fonctionnement. Donc il a fallu aussi nous mettre un point essentiel à former les salariés à ce que c'est qu'une SCOPE, ce que c'est que faire partie de l'économie sociale et solidaire de l'entreprise. Donc on les a formés depuis le début pour que quand on prend une décision, c'est ce que c'est un compte de résultat, c'est ce que c'est un bilan, on sait ce que c'est une entreprise.
Alors là on parle de chiffres, mais ce que vous faites très bien, c'est vos glaces, parce que vous avez tout réinventé aussi, vous avez développé toutes les recettes. Vous êtes aujourd'hui, allez, on va le dire, l'un des leaders sur l'Occitanie pour les glaces. On vous trouve également à Bordeaux, on vous trouve également à Paris, alors chez Carrefour, je crois, par exemple, pour ceux qui auraient envie de trouver...
Monoprix, je crois.
Monoprix également. Aujourd'hui, c'est un développement partout en France.
C'est l'objectif, bien sûr. Une entreprise, elle grandit tout doucement. On a commencé par l'Aude, Carcassonne, là où on a redémarré. Après, ça a été l'Aude. Après, ça a été l'Occitanie. Et effectivement, on essaye d'aller sur les régions voisines. Et puis, l'idée, c'est d'aller sur toute la France parce qu'on travaille avec une glace qui est tellement bonne, un produit qui est tellement de qualité.
C'est quoi votre parfum préféré de tout ce que vous faites, vous ?
Oh, ça va être basique, c'est la vanille. Hein. Elle est tellement bonne, avec du lait entier, avec des gousses de vanille, des infusions dans le lait. Non, c'est formidable. Hein.
Thierry Baril, vous êtes le directeur des ressources humaines d'Airbus. On vient de le voir, là, l'exemple de cette entreprise, elle aurait dû mourir, cette entreprise. Grâce à ce système de SCOPE, grâce à la formation en interne, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Elle ne cesse de grandir et d'évoluer. Chez Airbus, pendant toute cette période, il y a eu aussi besoin de former des jeunes pour peut-être des nouveaux métiers, pour préparer le Airbus de demain.
Oui, moi j'ai envie de dire que c'est exceptionnel. Et en fait, à chaque fois qu'on met les humains au centre de tout et de la transformation, on a ce type de résultat. Et je vous félicite parce qu'effectivement, cet enthousiasme donne envie, ainsi que vos glaces d'ailleurs au passage, qu'il faudrait que je goûte à l'occasion. Oui, chez Airbus, on a une grosse tradition de toute façon sur la formation d'alternance et sur l'apprentissage. On a les fameux lycées Airbus qui existent depuis des décennies.
C'est quoi ces
lycées ? Qui sont en fait nos centres de formation qui ressemblent étrangement à celui dans lequel nous sommes accueillis aujourd'hui.
Purple Campus de la CCI d'Occitanie.
Magnifique, ça va donner beaucoup beaucoup d'envie chez Airbus, j'en suis sûr. Mais on est exactement dans cet état d'esprit parce qu'on a toujours considéré que l'apprentissage était le meilleur moyen de préparer la compétence de demain pour beaucoup de secteurs, et notamment dans les secteurs de production. Ça vous êtes capable d'acquérir des connaissances à 70% en étant sur le terrain et en comprenant votre poste, à 20% en interagissant avec d'autres professionnels et à 10% seulement en formation théorique.
Et grâce à ça, parce que grâce à ces lycées, en formant vos futurs salariés, vous pouvez du coup les former au futur métier, parce
Exactement.
Que c'est ce dont vous avez besoin d'être en avance, parce que parfois l'éducation nationale, elle ne suit pas, vous parliez tout à l'heure de l'avion à hydrogène, bon bah faut le savoir que ça va voler un jour un avion à hydrogène, mais vous pouvez du coup former, déjà vous avez adapté vos formations ?
Oui, alors on adapte nos propres formations d'ailleurs sur l'apprentissage ou sur la formation continue. On est aussi bien évidemment avec beaucoup de partenariats, avec beaucoup d'écoles à différents niveaux de l'entreprise et pour différents types d'emplois, de telle façon qu'on soit capable d'influencer également, si je puis dire, le cursus d'éducation pour l'avenir.
Maxime Jarre, vous êtes le directeur général de la Belle Aude. Vous nous avez bien donné envie avec vos glaces. Hein, et avec vous, on a l'exemple même que la formation, les contrats de l'alternance, ben c'est sûrement l'avenir et que ça assure la pérennité d'une entreprise. Merci à vous d'être venu dans la France Bouge nous présenter votre entreprise.
Et Thierry Barry, le directeur des ressources humaines d'Airbus, vous restez avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1. 13h28 sur Europe 1, à suivre un bel exemple aussi de transmission des compétences de génération en génération.
Oui, il s'appelle Jean-Pierre Blasco, il a une auberge là qui paraît-il très très bonne du côté de Carcassonne et surtout il transmet sa passion aux apprentis, on va découvrir tout cela dans un instant. Elle bouge cette Française, elle a de la chance, elle est aujourd'hui en direct du Purple Campus de la CCI d'Occitanie, en direct de cette très belle cité de Carcassonne. On est avec notre grand témoin du jour, Thierry Baril, qui est le directeur des ressources humaines d'Airbus. Alors, on a beaucoup parlé de formation hein, depuis le début de cette émission, on a compris à quel point c'était indispensable. Une formation, on ne le sait pas toujours, hein, c'est le salarié qui maintenant est maître de sa formation, c'est lui qui logiquement doit décider de son projet professionnel. Une réforme qui avait été très importante, mais est-ce que vous avez l'impression, Thierry Baril, que nous, les salariés, moi pour être honnête, j'ai jamais encore utilisé mon compte personnel de formation.
Moi non plus.
Est-ce qu'on s'en saisit assez d'après vous ?
Alors, peut-être pas encore suffisamment, mais on voit bien quand même une évolution extrêmement positive dans le fait que le salarié soit devenu l'acteur. Il n'attend plus simplement la prescription de l'entreprise, mais finalement, on parle beaucoup de développement aussi personnel à l'entreprise. Et on voit bien que l'accès à la formation a été quand même vraiment facilité au cours des dernières années et permet à tous ceux qui ont finalement capitalisé des moyens de pouvoir le faire, de le faire. À nous d'avoir l'offre qui permet également de permettre à nos salariés de le faire aussi en interne.
Ça veut dire quoi avoir l'offre ? C'est-à-dire que vous travaillez beaucoup sur les formations qui peuvent plaire vraiment aux salariés, c'est ça ? Vous avez amélioré, vous avez rendu ça plus intéressant, du sur-mesure, comme dit Elisabeth ?
Le principe est simple, plus vous apportez de la compétence, plus vous êtes en multi-compétence, plus vous permettez aux salariés d'assurer leur employabilité et à se développer dans l'entreprise, à évoluer dans l'entreprise. Chez nous, nos syndicats parlent souvent de l'ascenseur social, c'est leur terme, mais quelque part, ils expriment bien le principe de la culture d'Airbus. Si on peut évoluer dans l'entreprise, accéder à un savoir nouveau, le développer et se développer et être promu, c'est bien évidemment l'objectif en fait à la fin. Et c'est vrai que l'effort formation a toujours été extrêmement conséquent chez Airbus.
Thierry Baril, il y a le volet formation, mais vous êtes aussi un des gros acteurs de l'apprentissage hein, chez Airbus. Est-ce que vous avez maintenu vos recrutements pendant cette période qui vient de s'écouler ?
Alors, oui et non, dans le sens où nous n'avons pas recruté autant d'apprentis que dans le passé, ceux qui sortaient de leur cursus, mais on leur a permis de poursuivre leurs études. Donc, en fait, finalement, ça revient au même.
Et à partir pour ensuite 2021, les prendre, quand même.
Exactement. Et on a beaucoup de jeunes qui s'arrêtaient, par exemple, au bac pro, qui ont décidé de faire des BTS et qui ont profité de la période qui était quand même pas très positive pour finalement poursuivre leur cursus de formation et vont être recrutés par Airbus à la fin.
Et quelle sera la proportion d'embauchés ensuite chez Airbus ?
Alors, on est toujours au-dessus de 90%.
Ah, carrément. Ce
sera le cas.
Donc, c'est 9 apprentis sur 10 qui entrent chez Airbus se voient proposer un CDI à l'issue de son apprentissage.
Et à peu près 10 apprentis sur 10 qui réussissent leur diplôme. Je pense que c'est important de le dire, parce qu'on est à peu près à 100% de réussite sur l'ensemble de nos diplômes.
Alors, on parle d'apprentissage. Justement, on a trouvé une entreprise pour laquelle l'apprentissage est dans l'ADN hein, depuis très longtemps. Bonjour Jean-Pierre Blasco.
Bonjour.
Vous êtes le gérant du restaurant L'Auberge des Lys à Carcassonne. Et vous aussi, vous êtes passé par la case de l'apprentissage. Vous aviez 16 ans. C'était ici, à Carcassonne, vous aviez envie d'arrêter complètement les études, hein, vous avez envie de tout arrêter. Et pourtant, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes un produit pur de l'apprentissage.
Je suis un produit pur de l'apprentissage, moi-même étant apprenti à l'âge de 16 ans. j'ai voulu continuer. Moi, étant issu de l'apprentissage, je ne pouvais pas ne pas former des apprentis, et ce depuis 30 ans.
Mmh. Mais c'est vrai que ce qui est important dans ce que dit Elisabeth, c'est que vous vouliez arrêter l'école, vous en aviez marre. Et grâce à l'apprentissage, vous avez découvert, un, vos compétences, et deux, une passion pour un métier. On peut le dire ainsi ?
La passion vient après, je pense. La première année, on est plutôt en découverte. Et après la découverte, là, la passion arrive et le métier suit, quoi.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre cursus d'apprenti ? C'est-à-dire que vous venez de le dire, hein, vous y êtes allé, bon, c'était la première année, vous découvriez un domaine, tout était nouveau. Qu'est-ce qui vous a marqué ? À quel moment vous avez dit, non mais en fait, je vais en faire mon métier ?
Mais dès le départ, quoi. Voilà, la première année, on est en découverte, comme je vous l'ai dit. Ensuite, par la suite, bon, on vous met à plusieurs postes, vous essayez, c'est l'apprentissage, hein, vous essayez un peu tout.
Il y a un moment, un poste qui vous a particulièrement marqué lors de cette période ?
J'ai eu la chance de travailler dans un endroit où on touchait à tout. Donc c'est ceci qui m'a plu.
C'est ce qui vous a plu, c'est ce qui vous a permis de devenir entrepreneur ? Parce que quand vous avez commencé l'apprentissage, vous y étiez dit dans un coin de votre tête, un jour je vais ouvrir mon restaurant, je vais le transmettre à mes enfants, parce que je crois que deux de vos garçons aujourd'hui tiennent le restaurant que vous aviez ouvert, si je ne dis pas de bêtises.
C'est pas tout à fait ça. Ah. Moi, j'ai ouvert avec un associé et mon frère, on a ouvert un restaurant dans la cité médiévale, dans lequel je suis aujourd'hui. Et depuis 3 ans, mes deux garçons, qui font partie du métier, qui ont fait l'apprentissage aussi avec moi, on a ouvert un restaurant en Villebasse, place Carnot.
Qu'est-ce que l'apprentissage a de plus qu'un cursus classique, Jean-Pierre Blasco ? C'est quoi ? C'est on découvre le monde du travail avec ses codes, ses rituels, beaucoup plus rapidement que si on est assis en classe. Et voilà, c'est cette confrontation au monde réel.
On est confronté au monde réel dès le départ. On est dans le monde du travail. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a toujours le centre de formation qui est là pour complémenter ce que vous apprenez à vos jeunes. Vous apprenez les bases au centre de formation et vous les mettez en application dans l'entreprise par la suite.
Justement, ici au Purple Campus qui appartient à la CCI d'Occitanie, ici à Carcassonne, notamment on forme, et on a pu le tester avec Elisabeth, ouais. Il y a un restaurant exceptionnel qui n'est fait que par les apprentis qui sont ici présents sur ce site. Vous avez à cœur aujourd'hui de continuer de former des apprentis au point de continuer à les suivre. Je crois que quasiment tous, vous savez où ils sont et ce qu'ils
quasiment
font encore aujourd'hui.
Quasiment tous mes apprentis, j'ai toujours des contacts avec eux. Pour moi, la formation aujourd'hui, on peut pas passer au travers. Vu que c'est de plus en plus compliqué de recruter des cuisiniers. Donc moi, ce que j'ai préconisé, c'est de former et de garder mes jeunes ensuite par la suite.
Et comment vous les gardez ?
Déjà, c'est à leur demande. Hein. Ils restent après, en général, un jeune que vous formez, il reste 1 à 2 années de plus chez vous. Et après, il demande à partir, ce qui est tout à fait normal, voir autre chose et d'autres horizons.
Aujourd'hui, vous le constatez sur le terrain, les jeunes ont-ils envie d'apprendre ?
Pas tous, mais une bonne partie quand même. Ils sont un peu perdus quand ils arrivent. C'est à vous à les guider, à les former, à leur montrer la bonne voie pour pouvoir continuer ce métier.
On dit beaucoup en ce moment que dans la restauration, c'est compliqué de garder ses personnels, puisque notamment à l'aune de ce confinement, certains ont découvert qu'il y avait une vie sympa au-delà de ce travail qui est parfois un peu compliqué. Vous le vivez chez vous ?
Moi, j'ai eu la chance avec mes jeunes. Bon, j'étais en contact constamment avec eux pendant le confinement. Voilà, de temps en temps, certains venaient me voir. Bon, moi, j'ai fait un peu d'emporter pour pouvoir maintenir mon activité. Mais ça restait quand même assez compliqué.
Et là, vous êtes content depuis que ça commence à rouvrir un peu ?
Ça reprend.
On sourit quand même.
Alors, on a eu une semaine d'ouverture qui a été exceptionnelle. On a beaucoup, beaucoup travaillé. Là, ça s'est un peu tassé. On attend la saison avec impatience, en espérant que ça se passe aussi bien que celle de l'année dernière et que surtout qu'on ne soit plus confinés.
Il paraît que ça va même être encore un peu mieux. Les réservations sont très bien orientées. On espère que ce sera le cas ici pour Carcassonne. Thierry Baril, vous êtes le DRH d'Airbus. Vous avez beaucoup travaillé ces derniers mois puisqu'Airbus a lancé un énorme plan de réduction d'effectifs. Plus de 4000 salariés en France en moins. Vous aviez promis d'y arriver sans aucun licenciement sec. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que ce sont vraiment des départs volontaires qui ont été réalisés du côté d'Airbus ?
Absolument, je peux vraiment vous le confirmer. D'ailleurs, on en est très fiers parce que c'est l'ADN de l'entreprise. On essaye d'être toujours socialement responsable et on a réussi à le faire parce qu'en fait, nous n'avons pas fait partir plus de 4000 personnes. Nous avons été capables de garder un certain nombre de personnes dans l'entreprise en utilisant des moyens type chômage partiel de longue durée.
On appelle l'activité partielle de longue durée, pour ceux qui ne connaîtraient pas.
C'est était quand même très pratique dans les domaines de...
Ça permet de réduire de 40% le temps de travail, donc d'autant le salaire du collaborateur. C'est l'État qui paye
L'État et l'entreprise, parce qu'effectivement, chez Airbus, on est plutôt avec une très belle couverture. Et puis également, d'autres emplois, plutôt dans les domaines d'ingénierie, qui ont été sauvegardés dans le cadre des soutiens que nous avons eus gouvernementaux, dans le cadre de la recherche. Et en fait, pour préparer le futur, l'avenir et la future génération d'avions.
Justement, là, vous parlez d'aide, vous parlez de l'activité partielle de longue durée, vous parlez de l'activité partielle. Est-ce que vous pouvez dire qu'on a peut-être été mieux aidé en France que dans d'autres pays ? Vous êtes un groupe mondial, vous avez des usines partout en Europe, mais également aux États-Unis, en Chine. Est-ce que le plan d'aide a été bien fait en France et mieux peut-être qu'ailleurs ?
Alors, le plan d'aide a été très bien en France. Il est vraiment pas mal en Europe, mais il était aussi très bien en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne.
La chance d'être... Là, vous voulez vous fâcher avec personne.
Non, mais c'est la vérité.
Pour vous, c'était lequel le meilleur plan ?
J'ai pas de préférence parce que je suis un citoyen de l'Europe. Et ouais, effectivement, étant français, je vais vous dire qu'on a le sentiment d'avoir été bien soutenu. Mais quand vous regardez l'Allemagne, par exemple, qui est quand même la deuxième grosse partie d'Airbus, c'est tout à fait comparable en termes de...
Tout à fait comparable en Allemagne. Exactement. Thierry Baril, vous êtes le directeur des ressources humaines d'Airbus. Vous restez encore avec nous jusqu'à 14h.
Avec plaisir.
Et il est 13h40 pour le moment sur Europe 1.
Et nous sommes en direct de la Chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie à Carcassonne. Nous sommes en direct du Purple Campus, c'est La France Bouge. Et dans un instant, le pitch des trophées Europe 1, La France Bouge.
Oui, ce pitch, ce sera culot. Alors c'est quoi ? Eh bien, c'est une start-up qui récupère et transforme des bouteilles en produits d'art de la table. Et vous savez quoi ? C'est très joli. Allez, à tout de suite. Allez, on est toujours en direct de ce Purple Campus de la CCI d'Occitanie. On vous suit et on s'intéresse maintenant à notre pitch du jour avec notre grand témoin du jour qui est Thierry Baril, le DRH d'Airbus. Et on va également avoir dans un instant, bien évidemment, notre fée de la Chambre de commerce et d'industrie, Nathalie Carré.
Et une fois de plus, ça fait du bien. Nous accueillons une personne qui a osé se lancer en cette année si tourmentée, qui a osé changer de vie. Un projet lancé en septembre dernier. Bonjour Margot Delhomme. Vous avez 31 ans et vous êtes la fondatrice de Culo. Culo, ça s'écrit C-U-L-O. Il paraît que vous avez des doigts de fée parce que grâce à vous, les bouteilles de verre se transforment en vase, en carafe, en coquetier, en verre pour boire. Et votre profil aussi nous a beaucoup intéressé parce que vous avez travaillé auparavant dans des grands groupes. Vous avez à peine 31 ans.
Airbus.
On l'a pas fait exprès. Hein. Notamment Airbus, mais je crois aussi Pierre Fabre, il me semble.
Oui, ça a été un de mes clients.
Voilà, un de vos clients. Et vous avez eu envie de donner du sens. Alors vous avez tout quitté. Vous avez quitté votre travail. Vous avez quitté Toulouse. Et vous vous êtes lancé. Alors c'est quoi ces bouteilles si spéciales ? Vous allez tout nous raconter. C'est parti pour votre pitch. Vous avez une minute.
Alors donc en fait, Culo, c'est une jeune marque puisqu'elle a été créée très récemment, qui est engagée d'un point de vue environnemental et social. Donc je suis implantée à Cuxac-Dode, qui est pas très loin de Narbonne. Et donc en fait, le credo de Culo, c'est l'upcycling. Donc pour qu'on traduit en français sur cyclage. Donc l'upcycling, c'est récupérer un déchet ou un objet dont on n'a plus l'utilité. En tout cas, dans mon cas, c'est la bouteille de vin et de champagne principalement, pour lui donner une seconde vie. Donc c'est comme vous avez expliqué, c'est pour en faire des verres de différentes tailles, des carafes, des coquetiers, des plateaux. Là, depuis peu, je vais lancer une nouvelle gamme, des plateaux fondus. Donc il y a plein de possibilités. Donc c'est ça qui est génial dans cette entreprise. Chaque bouteille, en fait, est travaillée de manière artisanale. Donc c'est vraiment... ça me tenait à cœur de faire quelque chose de mes mains. Donc chaque bouteille est découpée, poncée, polie, lustrée. Elle peut être ensuite personnalisée avec la gravure, par le sablage, donc ce qui offre un large choix de produits aux clients, allant même dans une large gamme de prix aussi.
Et bravo.
Tout le temps en local.
Moi, je suis le méchant de la bande. Je dois vous couper quand la musique s'arrête. Mais vous avez parfait, en tout cas, pour ce pitch. Alors, je donne les prix aussi, généralement, parce que très souvent, ceux qui viennent présenter leur entreprise oublient de nous dire combien ça coûte. C'est une fourchette de prix entre 10 jusqu'à 49 euros. Pour avoir une idée, si on veut 4 verres, c'est 45 euros pour ceux qui sont blancs.
Exactement.
Si j'ai bien regardé sur le site internet.
Pour ceux qui sont non sablés.
Voilà.
Voilà.
C'est ça,
donc
45 euros.
Oui, tout à fait.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous fournissez auprès des professionnels. En gros, vous allez à la sortie des restaurants. Vous allez ramasser les bouteilles vides ?
C'est un peu ça. En fait, dès que j'ai commencé à travailler sur le projet, j'ai identifié des restaurateurs partenaires pour collecter mes bouteilles. Parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir des points de collecte, mais un peu restreints, et de collecter en masse.
Alors Margot, je vous présente Nathalie Carré, hein, qui analyse chaque jour, chaque dossier, chaque projet. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth. Bonjour Margot.
Bonjour,
bonjour Emmanuel.
Bonjour Nathalie.
Nathalie, vous êtes en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Quelles sont les forces et les faiblesses, s'il y en a, de Culo ?
Alors les forces, d'abord, bravo pour le site. Il est gai, il est dynamique. On sent une générosité, une convivialité. En plus, c'est clair, c'est bien expliqué. Vraiment, il donne envie. Et puis le prix, Emmanuel les a donné. Il est cohérent avec les autres marques qui font la même chose. Et puis vos produits sont bien expliqués. On sait comment ils sont fabriqués. La personnalisation, c'est très intéressant. Et vous êtes transparente sur le risque d'indisponibilité de certains articles, donc en raison de la collecte, comme vous venez de le dire. Alors, quelques suggestions, bah justement sur la collecte. À la fin de la phrase expliquant les risques d'indisponibilité, vous pourriez peut-être ajouter un bouton « Je veux donner mes bouteilles », au moins pour que les locaux, dans un premier temps, puissent vous apporter éventuellement leurs bouteilles qu'ils auraient chez eux. Et puis, deuxième point, vous avez rédigé des articles, notamment sur comment semer son basilic ou ses coquelicots. Bah, moi, je m'attendais, à la fin de l'article, à découvrir un pot en bouteille pour planter mes aromates. Une bouteille à un petit trou au fond pour laisser passer le trop-plein d'eau. Hop, sur un autre cul de bouteille et ça roule. Puis troisième point, avec des bouteilles de vin, le style et la couleur sont assez limités, donc peut-être deux idées, vous associer avec des artistes qui font de la peinture sur verre ou nous proposer des tutoriels pour qu'on puisse décorer nos bouteilles nous-mêmes. L'idée, c'est vraiment de vous démarquer des autres marques qui font comme vous.
Très intéressant.
Ouais, c'est intéressant. Elle vous dit d'aller carrément plus loin dans le délire de l'artiste. En gros.
En fait, il y a plein d'idées, mais vu que je suis encore toute seule sur le projet, je n'ai pas le temps de mettre en application mes autres idées. Donc ça, je vais bien le noter. Mais voilà, il faut le temps aussi que ça fait à peine six mois que je suis lancée. Mais c'est bien d'avoir ces idées. Merci beaucoup.
Thierry Baril, vous êtes le DRH d'Airbus. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je trouve ça génial. Et en plus, ça me fait très plaisir de savoir que Margot était chez Airbus auparavant. On a beaucoup de nos collègues qui prennent ce type d'initiative d'entrepreneurs. Et en fait, c'est ce qui crée de la dynamique et de l'engagement dans l'entreprise. On a un exemple notamment qui nous fascine toujours, c'est le démantèlement des avions et la reconstitution, le recyclage de certaines pièces en meubles. Et donc, vous pouvez aller voir sur Internet Piece of Sky, peut-être que vous le connaissez, donc un petit morceau du ciel. C'est une initiative d'un certain nombre de salariés d'Airbus avec des start-up pour recycler... des parties d'avions qui sont normalement promises au rebut. Et voilà, c'est juste extraordinaire et puis c'est très bien pour l'avenir, tout simplement.
Margot, vous avez besoin de quoi ? Puisque quand on a préparé cette interview, vous avez dit à notre équipe, je suis en plein questionnement, j'embauche, j'embauche pas, quel type d'emploi j'utilise ? Alors, vous avez un spécialiste face à vous, vous pouvez peut-être hors antenne après lui demander quelques conseils. Mais de quoi vous avez besoin ? De plus de clients, de plus de visibilité ?
Un peu de tout, vu que je suis en plein démarrage.
Et vous êtes seule, là, en plus.
Je suis seule. Donc, en fait, c'est là, je suis dans un tournant, en fait, stratégique. Et c'est si j'embauche, il faut quand même que j'ai aussi la trésorerie pour pouvoir verser un salaire. Mais pour pouvoir verser un salaire, il me faut plus de clients et plus de rentrées d'argent. Mais pour plus de rentrées d'argent,
il faut pouvoi les fabriquer.
Demain, à un moment donné, je ne peux pas aller plus vite que la musique.
Donc là, on ne peut qu'inciter nos auditeurs à aller regarder du côté de Culo, C-U-L-O. Et puis allez, on fait une petite offre et comme ça, ça vous permet d'embaucher. Ce sera bon pour tout le monde.
Merci beaucoup.
En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Nous, on a eu un vrai coup de cœur pour votre entreprise, pour votre profil. Merci à vous, Margot Delhomme. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Culo.
Et Nathalie Carré, on vous retrouve dès lundi. Si vous aussi, vous voulez comme ça venir présenter votre projet, eh bien, il y a une seule adresse mail. e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Thierry Baril, vous êtes le directeur des ressources humaines d'Airbus. Vous restez avec nous encore quelques minutes suite et fin de votre émission.
Europe 1. 13h50 pour le moment sur Europe.
Allez, on reste ici dans cette belle salle du Purple Campus, hein, au sein de la Chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie. Nous sommes à Carcassonne et ici, la formation et l'apprentissage sont au rendez-vous.
Oui, comment les CFA, comment les CCI viennent aider justement à cette formation ? On sera avec le directeur général de tous ces Purple Campus d'Occitanie dans un instant. Une France bouge toujours en direct de Carcassonne avec notre grand témoin du jour, Thierry Baril, qui est le directeur des ressources humaines d'Airbus.
Et si nous sommes à Carcassonne aujourd'hui, c'est parce qu'il y a Purple Campus détenu à 100% par les chambres de commerce et d'industrie. C'est simple, hein, c'est une structure unique, hein, nous y sommes là depuis ce matin avec Emmanuel Duteil. Elle est dédiée à la formation et à l'apprentissage. Bonjour Dominique Cressac.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes le directeur général du Purple Campus, qui dépend donc de la Chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie. C'est simple, Purple Campus, c'est l'endroit même pour la formation continue, pour l'apprentissage de toutes les chambres de commerce présentes en Occitanie. Et ce qui nous a plu aussi, c'est que vous venez à peine d'être créé, hein, c'était en janvier cette année. C'est la première fois qu'en France, une région, hein, dispose d'un centre de formation comme celui-ci.
Je vais vous prendre comme ambassadrice.
Ça nous a plu, c'est sincère, ça sort du cœur.
Vous nous avez bien nourri aussi avec vos,
ouais, c'est vrai, hein.
Vos bons apprentis.
J'ai noté, Emmanuel, que vous ne saviez pas comment utiliser votre CPF. J'ai quelques idées à vous soumettre en fin d'émission. Plus sérieusement, donc, soyez bien évidemment les bienvenus ici sur le Purple Campus de Carcassonne. Donc, Purple Campus, c'est la nouvelle dénomination de l'outil de formation des chambres de commerce et d'industrie de la région Occitanie, la CCI de région, mais également les 13 CCI de notre région Occitanie.
Mais qu'est-ce que ça a de particulier pour qu'on comprenne bien? Puisque, comme le disait très bien Elisabeth, c'est aussi bien un centre de formation des apprentis, ça on connaît tous, mais c'est avant tout un centre de toute la formation. C'est comme ça qu'on pourrait le résumer. Alors, vous avez tout rassemblé sur un même site et vous en avez 17 en Occitanie.
Exactement. La clé d'entrée, elle est unique. Et elle est unique parce qu'elle va s'adresser de la même façon aux porteurs de projets, aux chefs d'entreprise, aux salariés, aux demandeurs d'emploi et également aux apprentis. On est sur une clé unique d'entrée sur la gestion et le développement des compétences et des qualifications dont les entreprises ont besoin. Le point de départ, on part effectivement de l'ADN des chambres de commerce et d'industrie. Quels sont les besoins en compétences et en qualifications des entreprises ? Deuxième originalité, deuxième innovation, plutôt que chacun soit dans son coin, on a mutualisé.
Donc tout le monde se rencontre.
Nos forces.
Tout le monde se rencontre, quel que soit demandeur d'emploi, apprenti, alternant, ils se rencontrent chez vous.
Exactement. Et on a pour objectif de mettre en place la formation qui va bien au public concerné.
Ce qui est très important, c'est qu'il y a eu une réforme, là, pendant la crise, assez importante de l'apprentissage. Grosso modo, je résume, ça ne coûte rien à une entreprise de prendre un apprenti aujourd'hui, au point qu'il n'y a jamais eu autant de recrutement d'apprentis qu'en ce moment. Vous le voyez chez vous ?
Oui, alors, ça ne coûte rien. Il y a des aides financières.
Bien sûr, ça coûte, grâce aux aides, ça ne coûte rien.
Ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ça coûte des convictions auprès des entreprises. C'est un véritable investissement que font les entreprises. Alors, on l'a vu.
Mais vous confirmez qu'elles jouent le jeu pour la plupart et qu'elles continuent d'embaucher et que vous arrivez à placer vos jeunes?
Ah oui. On a eu, par exemple, sur la dernière rentrée, une augmentation de 21% du nombre d'apprentis. 21%, c'est 1200 apprentis de plus sur
c'est
nos
colossal.
17 campus.
C'est colossal.
C'est véritablement également un besoin pour répondre aux entreprises. Et permettez-moi, puisque nous sommes juste entre nous et que personne ne nous écoute, de préciser que nous avons d'ores et déjà plus de 2500 offres de contrats d'apprentissage sur nos campus pour la prochaine rentrée.
Et on voulait juste vous parler, là, pour nos auditeurs. Vous tapez sur Internet des mots et des mets, M-E-T-S, et vous allez voir, c'est un livre qui a été écrit ici par les apprentis du Purple Campus. Et pourquoi on vous en parle? Parce que vous avez de très bons apprentis en cuisine, mais bon, jusque-là, le français, ce n'était pas ce qu'ils préféraient. Et grâce à la prof de français et grâce au prof de cuisine, ils ont écrit ensemble ce livre de recettes et on l'a feuilleté avec Elisabeth. Chapeau à vos
chapeau
jeunes et du coup,
vous.
On voulait vous saluer pour ça. Donc, ça s'appelle « Des mots et des mets ». Vous trouvez ça sur Internet et ce sera super.
Et c'est ça la puissance de l'apprentissage. Ici, 24 000 personnes formées, 6 000 apprentis, 18 000 stagiaires en formation professionnelle. Merci, merci à vous Dominique Cressac. Vous êtes le directeur général de ce campus, hein, de Purple Campus, qui dépend de la CCI d'Occitanie.
Un grand merci Thierry Baril, DRH d'Airbus, d'avoir eu la gentillesse de venir de Toulouse ici à Carcassonne pour nous accompagner pendant toute cette heure lundi. Allez, on bouge encore, on retourne du côté de Roland-Garros, on sera avec le patron du Coq Sportif.
Merci à vous tous, merci à toutes nos équipes techniques qui nous accompagnent à chaque délocalisation. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.